Mélomanie. Mélomanie, le rendez-vous des mélomanes, une émission proposée et animée par Éric Dupri.
Bienvenue à l'écoute de Mélomanie, le magazine de Radio Présence dédié à l'actualité musicale classique toulousaine et régionale. Comme je vous l'ai annoncé la semaine dernière, nous sommes dans une période de haute intensité en ce mois d'avril, avec des concerts qui s'enchaînent joyeusement de manière quasi quotidienne. Il faut en profiter parce que plusieurs saisons arrivent à leur terme dans les semaines qui viennent, certaines se poursuivant tout de même jusqu'à fin juin comme celle de l'Orchestre National du Capitole. Pour vous annoncer et vous présenter tous ces événements musicaux, je reçois encore aujourd'hui l'inamovible Serge Chauzy, cofondateur et rédacteur du site Classique Toulouse, chroniqueur pour le site Culture 31 et le journal La Voix du Midi. Nous avons le plaisir d'accueillir un invité d'honneur une nouvelle fois, Joël Subiette, fondateur et directeur artistique du chœur Les Éléments. L'ensemble vocal toulousain fête ses 25 ans ce samedi 15 avril à la Halle aux Grains. Un concert anniversaire auquel nous allons largement consacrer la seconde partie de cette émission. En attendant, c'est l'actualité musicale récente qui va nous intéresser. Voici notre rubrique Retour arrière.
Mélomanie. Retour arrière.
Bonjour Serge, bonjour Joël, bienvenue aussi à tous les deux.
Bonjour.
Le premier concert sur lequel nous allons revenir a eu lieu mardi dernier, le 4 avril, à la Halle aux Grains, où les grands interprètes accueillaient le Budapest Festival Orchestra et le violoniste Renaud Capuçon, des fidèles de cette saison qui ont proposé au public toulousain un programme très original. Et vous étiez bien sûr dans la salle, Serge.
Oui, bien sûr, parce qu'il s'agit là d'un des grands orchestres du moment, vraiment un grand et bel orchestre, avec des spécificités particulières, une disposition des instruments caractéristiques de l'Europe de l'Est, d'ailleurs, et un chef excellent qui est le fondateur de cet orchestre, qui s'appelle Ivan Fischer, et donc un beau programme en deux parties, avec une première partie hongroise et une deuxième partie autrichienne, disons, plus exactement germanique,
oui.
Avec du Richard Strauss. Donc la première partie comprenait deux œuvres, une œuvre du un peu moins connu, bien qu'il le soit de plus en plus, Erne Dornani, qui est en fait le membre d'une véritable dynastie de musiciens, et qui a écrit cette très courte œuvre qui s'appelle Symphonic Minutes en anglais, mais en fait c'est une symphonie miniature en quelque sorte, avec exactement tout ce qu'il faut dans une symphonie et avec des couleurs particulières pour ces cinq mouvements, avec des rythmes, des couleurs et des sonorités originales. Évidemment que l'orchestre de Budapest, c'est son ADN, donc c'était absolument jubilatoire. Et puis ensuite, il y avait le premier concerto pour violon et orchestre de Béla Bartók, avec en soliste, eh bien, Renaud Capuçon. C'est la deuxième fois qu'on le voit dans la saison, cette fois, dans la saison des grands interprètes. Et il s'est intégré magnifiquement au style de l'orchestre, avec, je dois dire, dès son entrée, l'entrée est a cappella dans ce concerto, une sonorité de velours vraiment impressionnante. Et une entente parfaite entre le soliste et le chef. Bon, Bartók est un immense compositeur, on le sait, avec une caractéristique de l'écriture qui est liée un peu à la musique populaire hongroise. Et donc là, on a retrouvé ceci. C'était un grand moment, vraiment un très beau moment. Et puis le succès a été tel que Renaud Capuçon est revenu pour non pas un, mais deux bis. Et en plus, pas tout seul, pour jouer deux duos pour violon de Béla Bartók, toujours. Il a été accompagné par Guy Braunstein, qui est le premier violon de l'orchestre. Et donc, à tous les deux, ils ont joué ces deux pièces, dont la première est Legato et la deuxième est Pizzicato. Et puis, la seconde partie de la soirée était consacrée à un triptyque Richard Strauss, avec deux de ses plus célèbres poèmes symphoniques, puisqu'il y avait le Don Juan et Till Eulenspiegel. Et entre les deux, la fameuse Danse des sept voiles, extrait de Salomé. Alors là, je dois dire, dès les premières mesures du Don Juan, il y a une sonnerie de corps impressionnante là-dedans, c'était une chose impressionnante, une coulée de lave, vraiment, qui donnait le frisson, d'une beauté sonore et pas seulement, et d'une beauté expressive magnifique, un très beau moment. Ensuite, alors, la danse des sept voiles, oh ben là, c'était d'une violence quasi hystérique, on peut le dire, mais c'est l'œuvre qui est comme ça. Vraiment impressionnant là aussi. Et enfin, on a retrouvé les mêmes qualités dans la dernière pièce programmée, qui était Till Eulenspiegel, Lustige Streiche, voilà le titre exact, qui est traduit bizarrement en français par Till l'Espiègle. Eulenspiegel ne se traduit pas par l'Espiègle. Eulenspiegel, c'est la chouette et le miroir, qui étaient les deux attributs de ce Till en question.
Les sonorités Spiegel, Espiègle, et le personnage est Espiègle, effectivement.
Oui, oui, voilà, oui, oui, mais c'est une très mauvaise traduction. Bon, enfin bon. Et là aussi, on est impressionné par. Le premier solo que l'on entend dans ce poème symphonique, c'est le solo de cor qui est redoutable et pour lequel la plupart des cornistes sont un peu la trouille parce que c'est vraiment, vraiment redoutable à jouer. Et là, c'était une merveille avec des nuances et pas simplement de la virtuosité. Et donc, immense succès pour cet orchestre qui a fait l'effet d'une éruption volcanique en quelque sorte. Et il y a eu non pas des bis, ni un bis, ça fait quelque chose de tout à fait inhabituel. C'était une sorte de bœuf à la Tzigane, donc c'était jazzistique, et c'était quelques musiciens de l'orchestre qui ont offert une véritable séance d'improvisation, et qui vraiment ont surpris tout le monde. Et le chef était assis à côté d'eux et a assisté à ce bis de manière très détendue. Vraiment un grand bonheur, un grand moment que ce concert symphonique des grands interprètes.
Eh bien, voici un extrait du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Béla Bartók. Il était au programme de ce concert du 4 avril avec le Budapest Festival Orchestra. On va l'écouter interprété par Renaud Capuçon, mais il est accompagné ici par le London Symphony Orchestra. Il s'agit du premier mouvement Andante Sostenuto. Le premier mouvement Andante Sostenuto du concerto pour violon et orchestre numéro 1 de Béla Bartók, interprété par Renaud Capuçon, accompagné donc ici par le London Symphony Orchestra dirigé par François-Xavier Roth. Le prochain concert des grands interprètes est programmé ce mercredi 12 avril à la Halle aux Grains, où le duo Alexandre Kantorov-Daniel Lozakovic est attendu à 20h. Nous allons vous présenter ce concert en seconde partie d'émission. Retour maintenant sur un autre concert donné également à la Halle aux Grains. C'était vendredi le 7 avril. L'Orchestre National du Capitole s'y est produit sous la direction du chef japonais Kazuki Yamada et avec le claveciniste Jean Rondeau en soliste invité. C'était une première pour le second aux côtés de l'ensemble symphonique toulousain. Au centre du programme, il y avait le concert champêtre de Francis Poulenc encadré par d'autres œuvres dont Serge va se faire un plaisir de nous rappeler les titres.
Oui, alors il y avait tout d'abord une œuvre un peu inhabituelle, et un compositeur que l'on découvrait puisqu'il est japonais, il s'appelle Akira Miyoshi. Pour le situer, il est décédé en 2013, donc
très contemporain,
et il a écrit en 1964 cette partition de courte durée qui s'appelle Concerto pour orchestre.
Alors, tout simplement,
ça nous évoque un certain Bartók, évidemment. Vraiment une œuvre brillante, très énergique et dans laquelle, évidemment, Kazuki Yamada est complètement à l'aise. Hein. Kazuki Yamada, qui est des Japonais, mais qui est un fanatique de musique française.
Un francophile de la musique. Ah,
complètement. Et puis, il est important de savoir que Miyoshi a tout de même fait des études en France avec un certain Henri Dutilleux, qui lui-même se déclarait héritier de Debussy. Et comme le reste du programme, il y avait du Debussy, donc...
Oui, tout ça était très cohérent. C'est courant chez les Japonais, que ce soit les compositeurs ou les musiciens, d'être influencés ou très attirés par la musique française, et notamment celle de Debussy.
Oui, oui. Mais en deuxième œuvre de la première partie, eh bien, nous avons donc découvert en concert, parce que c'est une œuvre qui est très rarement donnée en concert, le concerto champêtre de Francis Poulenc. Alors, on sait que ce concerto avec clavecin, soliste, est né en quelque sorte d'une rencontre du compositeur avec la grande claveciniste de l'époque, qui était Wanda Landowska, et qui lui a fait découvrir un peu le répertoire de clavecin des 17e et 18e siècles. Et là, on retrouve une intelligence et une finesse de l'écriture qui fait que les craintes que l'on pourrait avoir concernant la sonorité d'un clavecin vis-à-vis d'un orchestre symphonique, même si c'est un orchestre un peu réduit, eh bien non, c'est l'écriture qui résout tous ces problèmes. Et donc, on constate que les interventions importantes du clavecin, eh bien, elles se produisent lorsque l'orchestre se tait ou lorsqu'il parle bas, en quelque sorte. Et donc, on entend toujours le clavecin. Un clavecin, d'ailleurs, joué de manière très fine, très nuancée, par Jean Rondeau, que l'on connaît dans le répertoire baroque, évidemment. Et donc, vraiment un très beau moment, avec une manière de jouer, de taper sur ces touches du clavecin, qui font penser à ce que on a attribué à Colette concernant le clavecin de Bach. C'est une géniale machine à coudre. Là, effectivement, on avait une géniale machine à coudre avec des contrastes dynamiques entre à la fois le jeu cristallin et de l'humour hein, de Jean Rondeau et puis les affirmations de l'orchestre. Donc un très beau moment qui a été vraiment ovationné par le public. Et l'accueil a été tel qu'il est évidemment revenu. Et là, il a joué vraiment son répertoire, puisqu'il a joué les fameuses Barricades mystérieuses de François Couperin. Bon, une pièce qu'on entend assez souvent sur les ondes de France Musique en particulier. Et puis la seconde partie était dédiée à Claude Debussy, avec tout d'abord « Je ». Jeu qui est en fait la dernière grande œuvre symphonique de Claude Debussy, qui est qualifiée par Debussy lui-même de poème dansé. Alors Jeu, alors c'est une intrigue un peu incroyable avec une balle de tennis qui disparaît, puis des jeunes gens qui courent après, et puis des petits jeux entre eux.
Musique de ballet.
Musique de ballet, oui, en quelque sorte. Et donc, on a beaucoup apprécié là la direction acérée du chef. C'était vraiment très pointu, la manière de le diriger. C'était pas du tout du flou impressionniste comme quelquefois on l'entend. Et puis enfin, alors l'œuvre la plus célèbre probablement de Debussy, La Mer, trois esquisses symphoniques donc, qui complétaient ce voyage coloré. Et là, on a vu un Kazuki Yamada déchaîné, qui danse, qui saute, qui décolle même de son podium, et vraiment qui a mené à terme ces trois mouvements de ce poème symphonique de manière lumineuse, hein, et avec des scintillements incroyables. Et le final en particulier, il a fait du final un véritable orage. Hein, c'était une tempête, c'était vraiment cataclysmique. Et donc, il y a eu une ovation, hein, là aussi, de tout le public concernant cette interprétation. Et on a pu constater à quel point, entre les musiciens de l'Orchestre National du Capitole et Kazuki Yamada, eh bien, le courant passe, vraiment.
Mais depuis quoi, 10 ans ?
Depuis très longtemps.
Peut-être même plus. Hein,
mais apparemment, lui adore ses musiciens et les musiciens l'adorent. Donc, tout va bien.
Je peux confirmer. Et puis, il adore cette musique. Cette musique de Debussy, je ne suis pas étonné qu'il ait été comme possédé un peu par l'œuvre qu'il était en train de diriger, notamment La Mer, qui est une merveille. Je crois que les deux grandes œuvres de Debussy, en tout cas les plus connues, il y a La Mer bien sûr, mais il y a aussi le prélude tout de même à l'après-midi d'un faune.
Oui, bien sûr.
Comme l'Orchestre National du Capitole avait enregistré il y a 35 ans La Mer de Claude Debussy sous la direction de Michel Plasson, je propose qu'on écoute un extrait de ce disque paru chez Warner Classic à l'époque. Il s'agit de la première des trois esquisses symphoniques de l'aube à midi sur la mer. De l'aube à midi sur la mer, première des trois esquisses symphoniques qui composent la mer de Claude Debussy dans une version enregistrée par l'Orchestre National du Capitole sous la direction de Michel Plasson en 1987. Un CD paru donc sous le label Warner Classic. Fin de cette première partie d'émission. Courte virgule musicale avant de nous retrouver avec Serge Chosy et Joël Subiette, notre invité d'honneur. Pour la partie agenda de ce numéro, elle va être copieuse. Restez bien à l'écoute de Radio Présence. A tout de suite.
Mélomanie, l'agenda.
L'agenda de Mélomanie, toujours avec Serge Chosy et avec Joël Subiette, fondateur et directeur artistique du chœur Les Éléments, à quelques jours du concert anniversaire de cet ensemble vocal que vous avez fondé il y a un peu plus de 25 ans, Joël. Et à ce propos, avant de parler de l'événement du 15 avril à la Halograin, je voudrais faire un petit saut dans le temps avec vous. Quand vous avez créé Les Éléments en 1997, en septembre soyons précis, est-ce que vous aviez déjà une idée très précise, justement, de ce que vous vouliez faire avec ce chœur en termes de répertoire et de travail vocal, et est-ce que vous imaginiez l'amener où il est aujourd'hui ?
Oui, j'avais l'idée de base était là, c'est-à-dire d'avoir un chœur de chambre qui soit à même de faire le répertoire ancien, et aussi avec une volonté d'aller vers le répertoire d'aujourd'hui et les commandes, et qui fasse beaucoup d'a cappella. Et pas seulement. Oui, cet objectif était là dès le départ. Après, il y a des choses que je n'imaginais pas. C'est qu'un jour, on ferait de l'opéra, par exemple. Un répertoire sur lequel je ne pensais pas que l'ensemble pourrait aller. Puis finalement, ça s'est fait.
Quels sont les grands moments que vous retenez de ce quart de siècle d'histoire ? Bon, je sais qu'il y en a eu beaucoup, mais il y en a peut-être quelques-uns qui vous ont marqué plus que d'autres.
Bon, alors, évidemment, peut-être... les premières collaborations avec orchestre, ça a été des moments forts, et notamment avec Michel Plasson. Hein, dans les années 2002, 3, 4, 5, on a fait le Kadish de Bernstein, on a fait l'enregistrement du Carmen de Bizet, c'est nous qui faisions les chœurs, un disque Berlioz aussi avec lui. Donc ça, c'était des grands moments parce qu'on allait dans d'autres répertoires, évidemment. Bon, il y a eu un moment d'émotion, mais qui a été les victoires de la musique, même si finalement on se dit bon, c'est anecdotique, mais en fait ça l'a pas trop été parce que ça nous a ouvert quand même certaines salles et certaines
maisons. C'est souvent la vertu des récompenses, que ce soit au cinéma ou dans la musique.
Voilà, c'est vrai que l'année d'après, on était au Châtelet, on était au Théâtre des Champs-Élysées. Enfin, c'est vrai que ça a ouvert des salles, notamment parisiennes, et puis aussi la diffusion. Après, les grands moments aussi, ça a été les premières tournées à l'étranger. Évidemment, dans la vie d'un ensemble, partir en tournée, c'est quelque chose qui est excitant. Parce qu'on rencontre d'autres publics, d'autres cultures, mais aussi ça soude l'ensemble. Il y a voilà, j'ai souvenir comme ça en 2004 d'une première tournée au Canada, Vancouver, d'être allé à Atlanta aux États-Unis, d'être allé chanter en 2005. On a chanté devant 2000 personnes au pied du temple de Bacchus à Baalbek, au Liban. Je crois que c'est le plus beau décor de ma vie que j'aurais jamais, n'aurais jamais une note comme ça. Enfin voilà, donc, et puis après, je dirais aussi certaines rencontres avec certains compositeurs qui sont des moments très très importants parce que finalement, le dialogue avec celui qui a écrit la musique peut s'avérer complètement passionnant. Alors, j'ai des souvenirs comme ça, oui, très forts.
Les éléments aujourd'hui. Bon, on a parlé des origines, on a fait quelques petits sauts dans le temps. Là, bon, c'est tourné notamment dans les années 2000 et puis certaines collaborations avec des orchestres et des chefs d'orchestre. On y reviendra peut-être. Aujourd'hui, qu'est-ce que c'est les éléments ? Alors, il y a une chose qui est assez récente, c'est que c'est un centre d'art vocal en Occitanie.
Oui, alors en fait, c'est une distinction du ministère de la Culture qui a été donné à quatre ensembles en France, le chœur Accentus à Paris, le chœur Spirito pour Lyon et la région Rhône-Alpes, l'ensemble Musica 13 à Marseille et pour la Provence Côte d'Azur, et puis les éléments pour l'Occitanie. En fait, c'est quatre ensembles qui, depuis le début, ont fait beaucoup de choses en direction des publics scolaires, à côté des concerts, j'entends, hein, bien entendu, des choses avec les publics scolaires, aussi en direction de la pratique amateur, de la défendre, de faire des stages, des académies. Et en fait, cette distinction nous a été donnée sous la forme d'un label, en fait, Centre d'art vocal pour la région, qui nous donne évidemment plus de moyens pour continuer à faire toutes ces actions-là, parallèles au concert. C'est une deuxième vie de l'ensemble.
Et qui sont notamment en direction aussi bien des musiciens professionnels ou en voie de professionnalisation, mais aussi pour de grands amateurs.
Oui, voilà, des amateurs. On travaille en collaboration avec l'ARPA aussi, sur certains stages qu'on co-organise. Voilà, des jeunes chefs de chœur.
Et puis, il y a toujours ces invitations régulières dans de grandes salles. Je pense notamment à l'Opéra Comique ou au Théâtre des Champs-Élysées.
Oui, au Théâtre des Champs-Élysées, on y était la semaine dernière pour un concert là, avec les Puritains de Bellini, dirigé par Maestro Sacripante, un spécialiste du genre italien. Et l'Opéra Comique, oui, on y est chaque saison et même des fois deux fois par saison. On y était cette saison avec l'Armide de Gluck en octobre et novembre dernier. Et on y sera l'année prochaine au mois de juin avec aussi Narmide, mais pas le même, celui de Lully, avec Christophe Rousset et ses talents lyriques à l'Opéra. Et on sera même à l'Opéra à Toulouse l'année prochaine. Je sais pas, vous l'avez peut-être vu lors de la conférence de presse du...
Oui, maintenant on peut en parler parce que c'est officiel.
C'est officiel, voilà. Et on s'attendait à tout sauf à chanter à l'Opéra à Toulouse. Et il se trouve que l'année prochaine, à un moment de la saison, le chœur ne sera pas là, puisqu'il sera à Paris. Et donc, on fera les chœurs de Idoménée, de Mozart.
Oui, parce qu'habituellement, c'est le chœur du
Capitole, qui est normal, voilà.
Bien entendu, puisqu'il est sur place. Mais on a un autre grand chœur à Toulouse. On en parle souvent parce que finalement, on vous entend beaucoup plus en dehors de Toulouse qu'à Toulouse. Mais tant mieux d'ailleurs.
Oui, je pense qu'on fait quand même tous nos programmes à Toulouse, ou presque.
Mais il y a la résidence à Audi-Sud,
voilà, oui,
ça c'est aussi quelque chose de très important depuis 20 ans, plus de 20 ans.
Ans
même.
Ouais, ouais. Ouais.
Ça aussi, je pense que c'est quelque chose de très important pour vous,
parce qu'on y a
cette assise à Toulouse, et puis ce lieu quand même qui vous a toujours soutenu.
On a pu y faire toutes nos créations de programmes, on y a donné pratiquement tous nos programmes en fait.
Alors, je parlais des chefs et des orchestres, des ensembles avec lesquels il y a une histoire des collaborations régulières. Bon, il y en a un que je vais me permettre de citer en premier, c'est les Passions de votre ami Jean-Marc Andrieux.
Bah oui, c'est une grande collaboration depuis des années. Bon, puis Jean-Marc et moi, on se connaît depuis qu'on est étudiants. Hein. On chantait les deux dans le chœur d'Alix Bourbon quand on était étudiants, à côté, tous les deux ténors. Donc on se connaît depuis très longtemps. On a beaucoup collaboré. L'ensemble, cette année, chantait encore sous sa direction l'Opéra de Mondonville. J'ai dirigé l'orchestre plusieurs fois aussi. Donc c'est vraiment une vieille collaboration. Là, il se trouve qu'on est avec un autre orchestre parce que c'est un programme qui a été monté à Montpellier qu'on reprend. Donc on fait une petite infidélité aux Passions, mais Jean-Marc le sait, et on est tous amis de toute façon dans la région. Non, c'est une belle collaboration avec Jean-Marc et qui va continuer bien sûr.
Alors on va parler quand même des enregistrements parce qu'il y en a eu plusieurs. Il y a un programme, et on en parlait avant que l'émission commence en off, qui vous suit, c'est vraiment le programme porte-bonheur, programme fétiche, appelons-le comme on veut, c'est Méditerranée sacrée.
Ah oui,
depuis presque 15 ans, hein, c'est 2009.
Depuis 2009, hein. Ouais. Ouais. Depuis 2009, en fait, ce programme a eu, je ne m'y attendais pas du tout, en fait, c'est un succès, un grand succès. On vient de donner, il n'y a pas longtemps, le 60e concert avec ce programme. Il a été donné dans 7 pays du monde, il a beaucoup tourné, et pas que sur notre continent. Donc, et puis c'est un programme qui mélange des grands noms de la Renaissance, c'est vrai, Victoria, Gesualdo, avec des compositeurs d'aujourd'hui, Zad Moultaka et Alexandros Markeas, donc grec et libanais.
Qui ont été... Ça fait partie des grandes rencontres pour
vous. Oui, c'est deux compositeurs vraiment qui ont été importants. Pour nous, oui, ça c'est vrai.
Avec plus près d'ici, Patrick Burgon aussi.
Ah ben oui, lui, c'est le premier qui a écrit pour l'ensemble.
Oui, parce qu'il y a aussi cet aspect création contemporaine très fort pour les éléments, et qui est arrivé assez rapidement finalement, ce qui n'était peut-être pas forcément votre intention de départ.
Si je voulais quand même qu'on puisse faire ça, parce que d'abord... je trouve que c'est toujours intéressant de travailler avec les compositeurs, puis je trouve que c'est un peu une mission. La musique a toujours été contemporaine, les musiciens ont toujours joué la musique de leur temps, et des fois sous les huées d'ailleurs. On connaît des créations dans l'histoire qui sont aujourd'hui devenues des chefs-d'œuvre, mais qui ont été très mal accueillis à la première fois. Et je trouve que ça fait partie de notre mission, voilà, de défendre les compositeurs d'aujourd'hui. Et j'avoue qu'il y a une chose aussi qui est importante, c'est de renouveler le répertoire pour les siècles ou du moins à venir. C'est-à-dire que, voilà, que en fait, les musiciens qui écrivent pour nous aujourd'hui deviennent les musiciens classiques de demain. Et d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, j'avais vu qu'un chœur en Lettonie reprenait une œuvre qu'on avait créée il y a plus de 10 ans. Et je dis, alors là, j'étais content. Je dis, voilà, on a créé une pièce, on l'a commandée. Et aujourd'hui, il y a quelqu'un qui la chante, notre chœur qui la chante. Voilà, c'est édité en Lettonie, c'est super.
Alors, je parlais des enregistrements tout à l'heure. Il y en a eu plusieurs de musique anglaise et nous allons parler de musique anglaise dans quelques instants. Je propose, pour vous faire patienter, mais ça va être court, d'écouter une petite pièce de Benjamin Britten, Fancy, interprétée par le chœur Les Éléments. Fancy, pièce de Benjamin Britten, interprétée par le chœur Les Éléments, un extrait du CD Shakespeare Songs que vous aviez enregistré il y a 20 ans, Joël Subiette, 20 ans quasiment, oui. Jour pour jour, et je n'ai pas choisi cette œuvre et ce compositeur par hasard, puisqu'il est temps que nous parlions du concert spécial 25e anniversaire à la Halle au Grain, je le répète, ce samedi 15 avril à 20h30, pour lequel vous avez choisi un programme anglais, ce qui en surprendra peut-être quelques-uns. Et pourtant, la musique anglaise et les éléments, c'est une vieille histoire, comme on vient de le constater. On peut même dire que cette musique anglaise vous a toujours accompagné presque depuis les débuts du chœur.
Oui, c'est vrai qu'on y est revenu régulièrement à travers des compositeurs différents. C'est vrai que la musique anglaise a une tradition chorale qu'on connaît, hein, et surtout sans interruption du Moyen-Âge à aujourd'hui,
oui, à travers
les filiations et du répertoire qui a toujours été vivant aussi. Donc forcément pour un chœur, c'est une musique vers laquelle on va, comme pour la musique allemande évidemment, ou italienne ou d'autres, il y a tellement de musique vocale et chorale. Mais j'aime beaucoup sa délicatesse, ses influences qu'elle est allée pêcher ailleurs aussi. Il y a des ouvertures de Purcell qui sont à la française, il y a évidemment les Allemands qui ont beaucoup influencé les Anglais aussi. Donc oui, c'est une musique en tout cas qu'on aime beaucoup faire.
Et qui est jouissive à chanter, je crois qu'on peut employer le mot. Chanter en anglais, c'est peut-être la langue qui s'y prête le mieux, moi, je trouve.
Alors, c'est pas si facile qu'on le croit.
Ah, facile, je dis pas.
Ouais.
Mais
Parce que, en fait, se pose toujours la place des diphtongues, où est-ce qu'on les met.
Si on veut bien.
C'est-à-dire qu'il y a l'anglais parlé ou chanté, peut-être dans le répertoire moderne aujourd'hui. Mais dès qu'on plonge dans l'anglais académique, ça pose quelques problèmes, comme d'ailleurs pour le vieux français. Faut-il le rouler? Faut-il à quel endroit fait-on les diphtongues?
Comme pour le latin.
On a la chance d'avoir travaillé un moment avec un chef de chant anglais sur un programme qui avait été choriste à Cambridge, donc il nous a éclairé de beaucoup de choses.
La musique anglaise vous a toujours suivi hein, depuis les débuts du chœur, mais bon, il y a une autre raison hein, au choix de ce programme, c'est que vous aviez créé le Dixit Dominus de Handel avec l'ensemble Les Ombres, qui est basé à Montpellier l'été dernier.
Oui.
Et vous avez voulu prolonger en quelque sorte ce moment en y ajoutant d'autres pièces, bien entendu. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le Dixit Dominus de Handel au programme du concert des 25 ans, mais il y a beaucoup d'autres pièces.
Alors oui, on avait donné l'été dernier au Festival Radio France m'avait demandé si on pouvait faire une collaboration Montpellier-Toulouse
oui,
avec
région.
L'orchestre Les Ombres de Montpellier. Et donc, on avait donné Purcell et Handel à cette occasion. Et là, j'ai rajouté d'autres pièces. Donc, la pièce majeure du concert, c'est le Dixit Dominus de Handel, qui d'ailleurs n'est pas très anglais comme pièce, puisqu'il a été écrit par un compositeur allemand à Rome. Puisque Handel est né allemand, il est mort anglais, hein, et cette pièce a été écrite à Rome, mais ça a été quand même une de ses cartes de visite d'entrée pour son entrée en Angleterre, notamment au service des puissants. Et en fait, les Anglais se sont appropriés cette œuvre qui est totalement européenne. J'adore cette pièce et les chanteurs aussi l'adorent. Elle est très virtuose pour le chœur, beaucoup de vocalises, les sopranos virevoltent dans les aigus. Donc, c'est une pièce, lumineuse, je dirais, un petit feu d'artifice vocal, en fait. Donc, tout indiqué pour un anniversaire. Évidemment, Purcell, il y a des pièces qui sont notre répertoire depuis longtemps, notamment ce « Hear My Prayer », qui est une pièce fantastique pour chœur à 8 voix. Mais on fait aussi son ode à Sainte-Cécile, une des odes à Sainte-Cécile de Purcell. On fait aussi des passages de l'ode à Sainte-Cécile de Britten.
Et on le retrouve.
En réponse.
Bien sûr.
Avoir un compositeur du XXe siècle. On a des pièces a cappella au début du concert, des grands Thomas Tallis et William Byrd, les musiciens de la reine Élisabeth Ier. Donc, toute cette période élisabéthaine est complètement avec une polyphonie magnifique. Et puis, deux pièces aussi composées en 2003 et 2009, donc récemment, même si elles sont de facture assez classique, par Jonathan Harvey, qui est un grand compositeur qui est décédé en 2012, grand compositeur anglais, on va dire, après Britten. Voilà, c'est le compositeur de la fin du XXe siècle. Donc dans des pièces dans lesquelles il s'inscrit totalement dans cette tradition anglaise, même en allant un peu chercher dans la musique ancienne. Donc voilà, j'ai voulu un programme qui ressemble un peu à l'ensemble, c'est-à-dire 5 siècles de musique où on va un peu voyager avec des pièces dans leur intégralité ou des fois quelques extraits seulement pour un peu faire un programme qui nous ressemble pour notre anniversaire.
Donc 5 siècles de musique anglaise. Que choisir dans ce programme? Bon, j'ai pas été très original parce que l'œuvre centrale, c'est tout de même le Dixit Dominus de Georg Friedrich Händel. Vous voyez comme ça sonne bien anglais, Georg Friedrich. Donc on va écouter un extrait de ce Dixit Dominus de Händel. Il s'agit de la version créée l'été dernier à Montpellier avec l'ensemble Les Ombres. Dixit Dominus de Georg Friedrich Händel, interprété par le chœur Les Éléments avec l'ensemble Les Ombres. C'est donc l'œuvre centrale du concert spécial 25e anniversaire des Éléments, ce samedi 15 avril à 20h30 à la Halle au Grain. Et avant cela, Serge Chosy, va y avoir plusieurs concerts au même endroit parce que la semaine qui vient est particulièrement fournie, presque trop, il faut bien le dire, dès ce mercredi 12 avril à 20h, comme annoncé en début d'émission, concert du tandem Kantorov-Losakovic, à l'invitation du cycle des grands interprètes, deux très grands solistes qui font cause commune depuis quelque temps en se produisant en duo. Et que vont-ils jouer, aux surprises, des sonates pour violon et piano?
Ah oui, étonnant, n'est-ce pas?
Oui,
alors, pour un pianiste et un violoniste, c'est très étonnant. Il faut quand même rappeler que ce sont deux musiciens très jeunes. Alexandre Kantorov, le plus âgé, est né en 1997.
Voyez. C'est un vieillard, lui.
Oui, n'est-ce pas? Et Daniel Losakovic, lui qui est né à Stockholm, il est né en 2001. Donc voilà deux jeunes musiciens extraordinaires. Alors le premier, ce qu'il a boosté dans le monde musical, c'est sa victoire au concours Tchaïkovski de Moscou
premier
en 2019.
Premier français.
Donc c'est extraordinaire. Et le second, Daniel Losakovic, a également des récompenses tout à fait honorables avec le Young Artist of the Year en 2017 au Festival of Nations, ce qui est un festival important. Et donc ces deux genoux, en quelque sorte, vont jouer trois pièces vraiment du grand répertoire, avec tout d'abord la sonate pour violon et piano, donc numéro 2 en la majeure de Brahms, cette sonate qu'il a composée en 1886 sur les rives du lac de Thun, donc qui, soi-disant, l'a inspiré. Et puis la sonate pour violon et piano numéro 1, celle-là étant la mineure de Robert Schumann, qui a été créée en 1852. Et puis ces deux œuvres seront suivies de la sonate en la majeure de César Franck.
Alors, bon,
magnifique œuvre que l'on connaît bien, qui a des sonorités, on pourrait dire, proustiennes, puisque souvenons-nous que Marcel Proust, sa sonate à Vinteuil,
oui,
qui se retrouve dans sa saga, elle est soi-disant un peu inspirée de cette sonate de Franck. Donc, vraiment, un répertoire, un programme très complémentaire, très, très bien fait. Et donc, on sera très heureux de revoir ces deux musiciens que l'on avait tous les deux vus ici à Toulouse,
ouais,
mais séparément.
Oui, avec orchestre.
Voilà, avec orchestre chacun. Alors qu'Alexandre Kantorov était déjà venu en soliste au festival piano jacobin, évidemment.
Mais on le reverra tous les deux, je pense, en soliste dans les années qui viennent. Le duo n'est pas formé pour l'occasion, hein, je le rappelle.
Ils ont déjà
joué ensemble. Voilà, bon, ça, c'est une soirée à ne pas rater avec ces deux merveilleux musiciens. Et puis le lendemain, au même endroit, également à 20h, nouveau concert de l'Orchestre National du Capitole, placé cette fois-ci sous la direction du chef catalan Josep Pons, un habitué du lieu, et avec la chanteuse, la mezzo-soprano Marianne Crébassa, qui vient presque en voisine puisqu'elle est originaire de Béziers. Le programme est aussi intéressant qu'alléchant, Serge.
Oui, et puis disons quand même tout le bien que l'on pense de Marianne Crébassa, qui est une chanteuse que pour ma part je trouve fascinante, avec un timbre et un style. Et
puis qui a beaucoup de présence.
Oui, une présence extraordinaire. Et donc, signalons quand même qu'à la fin de la saison 2020-2021, Josep Pons a renouvelé son contrat de directeur musical du Liceo de Barcelone, hein, où il est donc, il joue un rôle très important. Et donc là, les trois pièces qui sont au programme, la première, alors, on va la découvrir, hein, c'est de Franz Schricker, compositeur mort en 1934, donc pour le situer, et qui s'appelle Die Gezeichneten, c'est-à-dire les stigmatisés, c'est un opéra en fait, et on entendra le prélude. Donc, une œuvre à découvrir, hein, ici. Et puis ensuite, alors, avec un soliste, Marianne Crébassa, le fameux cycle de mélodies de Ravel, Scheherazade, pure merveille de poésie, qu'elle chante régulièrement, hein, d'ailleurs.
Oui, elle l'a enregistré aussi.
Elle l'a enregistré. Et donc là, on se régale à l'avance, hein, ça va être certainement un grand moment. Et puis, cela va s'achever avec la suite Elektra, la suite Elektra de Richard Strauss, alors qui est une partition orchestrale dérivée de l'opéra, Elektra évidemment, et qui a été arrangée par le chef d'orchestre allemand Manfred Honeck et Thomas Hill. Donc, ils se sont mis à deux pour tirer une suite de cet opéra, Elektra, opéra délirant, hein, et violent, et cataclysmique. On va découvrir ça, hein, donc c'est intéressant.
Oui, c'est intéressant. Et alléchant, comme je le disais. Et donc, Marianne Crébassa a enregistré Scheherazade de Maurice Ravel. Elle interprète ici L'Indifférent, la troisième mélodie, accompagnée au piano par Fazil Say. Thank you. L'indifférent, la troisième mélodie du cycle Scheherazade de Maurice Ravel, chantée par Marianne Crébassa, accompagnée ici au piano par Fazil Say. La mezzo-soprano est donc en concert à la Halle au Grain le jeudi 13 avril à 20h avec l'Orchestre National du Capitole sous la direction de José Ponce. Nous nous déplaçons maintenant à l'Opéra National du Capitole pour le concert qui donne les Sacs-Boutiers, l'ensemble de cuivres anciens de Toulouse, dimanche 16 avril à 15h. Un concert intitulé Le Jazz et la Pavane, dont le programme avait fait l'objet d'un enregistrement il y a quelques années avec le pianiste de jazz Philippe Léoger, qui sera bien sûr de la partie dimanche au Capitole, Serge.
Oui, absolument. Alors, il s'agit d'une idée qui, a priori, pourrait paraître un peu folle, c'est-à-dire faire cohabiter des musiques que c'est pas quatre siècles, hein, c'est incroyable. Hein. Mais en fait, tout simplement, c'était pour mettre en évidence un point commun entre ces deux musiques, c'est ce qu'on pourrait appeler l'improvisation. Alors, pour les musiques anciennes, les musiques de la Renaissance, on appelle ça, c'est l'ornementation ou les diminutions. Mais et évidemment, pour le jazz, l'improvisation, c'est la sève créatrice du jazz. Et donc, on aura ces deux ensembles de musique ancienne qui se contenteront de jouer de la musique ancienne. Vous n'entendrez pas la sac-bout et cornet à bouquin du jazz, non, pas du tout. Ils joueront de leur répertoire et ce sont les musiciens de jazz qui leur emprunteront les thèmes des pièces qu'ils joueront pour en faire des standards, en quelque sorte, sur lesquels ils vont improviser. Et donc, on aura, pour les musiciens de l'ensemble, Jean-Pierre Cani à cornet à bouquin, Daniel Lassalle à la sac-bout, Yasuko Yamabuva à l'orgue et au clavecin, et Florent Tisser à la percussion, alors que le quintet de Philippe Léoger sera constitué de, outre lui au piano et qui aura réalisé les adaptations, Claude Egea à la trompette, Jules Boitin au trombone et Denis Léoger à la contrebasse, Fabien Tournier étant à la batterie et aux percussions. Et nous entendrons des œuvres de compositeurs bien connus comme Diego Ortiz, Juan Vázquez ou Tarquinio Merula ou Heinrich Schütz, Matteo Fletcher. Ça, ce sont les compositeurs donc de l'époque de la Renaissance que les jazzmen emprunteront pour improviser.
Et qui composaient des pavanes.
Ah oui,
d'où le titre.
Notamment des pavanes, mais pas que.
Bien entendu. Donc,
voilà donc ce concert un peu inhabituel.
Alors, Philippe Léoger, c'est un grand pianiste de jazz qui fait une carrière internationale, comme son fils d'ailleurs, Denis, qui est dans la distribution. Oui. Et puis, c'est accessoirement tout de même le directeur artistique du festival Jazz sur son 31. Ah, oui. On va écouter tout de suite un extrait de ce programme, Le Jazz et la Pavane, avec El Fuego de Matteo Fletcher, interprété par les Sacs-Boutiers et Philippe Léoger. El Fuego, pièce de Matteo Fletcher, interprétée par les Sacboutiers et Philippe Léoger, un extrait de leur programme Le Jazz et la Pavane, à découvrir ou redécouvrir dimanche 16 avril à 15h à l'Opéra National du Capitole. Et enfin, encore un concert de la saison des grands interprètes, lundi 17 avril à 20h bien sûr, et bien sûr à la Halle aux Grains, où va se produire la pianiste portugaise Maria João Pires, une grande dame du clavier, une grande dame des 50 dernières années, hein, je crois qu'on peut dire ça, aujourd'hui sa carrière c'est un demi-siècle, qui va nous offrir un super programme Debussy, Schubert, Beethoven.
Oui, exactement. Alors c'est... D'abord, elle va ouvrir le concert avec la sonate en La majeure, la numéro 13, dite petite sonate de Schubert, une sonate relativement légère, écrite pendant l'été 1815. Et puis ensuite, elle jouera la suite bergamasque de Debussy, célèbre par son Clair de Lune, évidemment, qui est peut-être la pièce pour piano de Debussy la plus célèbre. Donc, elle jouera ceci. Et puis, elle finira avec la toute dernière sonate de Beethoven, la sonate 32, numéro 32, en ut mineur, la fameuse opus 111, avec cette ariette à variation incroyable qui a été consacrée par la formule de Thomas Mann, c'est l'adieu à la sonate. Donc, en quelque sorte, on termine le concert avec un adieu à la sonate. C'est très intelligent et très astucieux.
Mais c'est un très très beau programme, magnifique. Difficile.
Ah non, c'est pas facile du tout. Alors, Maria João Pires, c'est une très grande pianiste qui est de toute petite taille.
Hein. Oui, elle est minuscule.
Alors, très petite. Et elle a de petites mains. Puis j'avais discuté avec elle, elle m'avait dit qu'elle
jouerait... Et oui, on dit toujours, il faut des grands doigts,
elle
des grandes mains.
Elle ne jouera jamais du Rachmaninoff. Elle m'a dit, jamais je ne jouerai parce qu'il faut des mains gigantesques.
Pour finir en beauté cette émission, voici le célèbre Clair de Lune de la suite bergamasque de Claude Debussy sous les doigts inspirés, petits, mais inspirés de Maria João Pires. Clair de lune, extrait de la suite Bergamasque de Claude Debussy, joué par Maria João Pires. Voilà une des pièces au programme du récital que donne la grande pianiste portugaise lundi 17 avril à 20h à la Halle au Grain pour le compte de la saison des grands interprètes. Réservation et billetterie en ligne sur le site www.grandsinterprètes.com. C'est sur ce même site qu'il faut réserver et acheter vos places pour le concert du duo Kantorov-Losakovic, mercredi 12 avril à 20h, également à la Halle au Grain. Et toujours à la Halle au Grain, jeudi 13 avril à 20h, concert de l'Orchestre National du Capitole avec la mezzo-soprano Marianne Crébassa, dirigée par Joseph Ponce. Les réservations et la billetterie sont en ligne sur le site www.onct.toulouse.fr. Concernant le concert, le jazz et la pavane, donné par les Sacboutiers et le pianiste Philippe Léoger, dimanche 16 avril à 15h à l'Opéra National du Capitole. Billetterie en ligne à l'adresse www.opera.toulouse.fr. Et enfin, pour réserver et acheter vos places pour le concert célébrant les 25 ans du chœur Les Éléments, samedi 15 avril à 20h30 à la Halle au Grain, je vous invite à vous connecter au site www.les-éléments.fr. Ce 227e numéro de Mélomanie est terminé. Merci beaucoup à Serge Chosy et Joël Subiette d'en avoir été les invités. Très bon anniversaire et longue vie aux éléments. Merci aussi à Christophe Aubry pour la réalisation de ce numéro, dont le podcast est téléchargeable dès aujourd'hui, comme d'habitude, sur le site web de Radio Présence. Et merci à vous tous, chers auditeurs, pour votre fidélité à notre écoute. Excellente semaine musicale à tous.